Les dessous de l'Infox. Adrien Delgrange.
Démêler le vrai du faux, comprendre la fabrique d'une fausse information. Bienvenue à tous dans les dessous de l'Infox.
RFI.
Nous sommes au Liban et au Sénégal cette semaine. Retour d'abord sur les élections législatives libanaises. Un scrutin qui rebat les cartes des forces politiques au Liban. Un scrutin marqué aussi par de nombreuses infox plus ou moins loufoques. Nous sommes à Beyrouth dans un instant. Il sera ensuite question de faux médicaments, des chiffres astronomiques du nombre de morts ayant ingéré de faux médicaments circulent au Sénégal. Nous y verrons plus clair avec Valdez Onanina d'Africa Check. Et puis nous resterons au Sénégal pour comprendre comment les plus jeunes sont sensibilisés à la lutte contre la désinformation. Entretien à suivre avec Adama Sania, enseignant dans le primaire à Dakar. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Nous sommes donc au Liban pour commencer cette émission où se déroulaient les élections législatives dimanche dernier. Dans un climat de tension, le pays traverse la pire crise économique de son histoire. Finalement, dans la semaine, les résultats sont tombés. Le Hezbollah perd la majorité, mais déjà les accusations de tricherie pleuve. Noé Pignède, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes à Beyrouth pour RFI. Noé, vous avez suivi la campagne électorale libanaise, une campagne minée par les rumeurs et les infox.
Oui, et c'est allé jusqu'à des vagues de harcèlement sur les réseaux sociaux. Plusieurs candidats en ont été victimes. Au Liban, la désinformation est en plein essor selon les ONG et la campagne électorale qui vient de s'achever n'a pas échappé à ce poison de la rumeur. La liste indépendante sur laquelle était la candidate Verena El Amil, que vous allez entendre, a été la cible d'infox tout au long de sa campagne.
Beaucoup de gens ont essayé de dire que c'est la liste tantôt proche du Hezbollah, tantôt anti-religion, communiste. La veille des élections, il y a eu une rumeur qui disait que je me suis retirée et beaucoup de personnes ont cru à cela. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils ont cru que je me suis retirée.
Noé Pignède, des infox qui ont donc eu sûrement des conséquences sur les résultats des élections au Liban.
Oui, très certainement. Et alors, pendant cette campagne, certains candidats ont été accusés d'être des agents de l'étranger soutenus par Israël, par l'Arabie Saoudite ou même par les États-Unis. Bien sûr, le Liban est soumis à de nombreuses ingérences étrangères, donc que des candidats soient poussés par tel ou tel pays, c'est tout à fait possible. Sauf que ces accusations n'ont jamais été étayées par la moindre preuve. Parfois, des candidats ont aussi fait face à des infox concernant leur vie personnelle, accusés d'avoir des relations tarifées avec des prostituées ou d'être homosexuels. Et puis enfin, tout au fond du caniveau, on a vu passer sur les réseaux sociaux des photomontages porno de candidates, toujours des femmes évidemment.
Alors, qui relaie ces infox ?
Alors, comme dans toutes les batailles électorales, les fausses informations, elles viennent du camp d'en face, souvent de militants, mais on a vu aussi fleurir sur les réseaux sociaux des milliers de faux comptes qui relayaient tous les mêmes mots-clés pour que les messages deviennent viraux. Et là, on sait que c'est directement les équipes de campagne qui sont derrière. Un candidat nous a même confié avoir payé 20 000 dollars pour engager une armée numérique, des comptes qui faisaient sa com, mais qui diffusaient aussi de fausses informations sur ses concurrents.
Et alors, les électeurs tombent-ils dans le panneau ?
Eh bien, les Libanais ne sont pas tous complotistes ou mal informés, mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens dans tous les milieux et souvent de bonne foi relayer ces infox. Il faut dire aussi que les cafouillages comme celui du taux de participation communiqué par le ministère de l'Intérieur, d'abord de 41% dimanche soir, puis finalement de 49% trois jours après, eh bien, ces cafouillages, ça mine la confiance des Libanais dans l'information qui leur est donnée. Et puis, enfin, le système médiatique local avec ses chaînes de télé, ses radios et ses journaux pratiquement tous détenus par des partis politiques, ça n'aide pas non plus à lutter contre la désinformation, bien au contraire. Dans cette campagne électorale, les différents camps se sont servis de ces médias pour faire de la communication, mais aussi pour relayer des attaques contre leurs compétiteurs dans des émissions et des reportages, de la propagande qui reprend les codes du journalisme pour mieux tromper les électeurs.
Noé Pignède à Beyrouth pour RFI. Noé, information qui ne manquera pas de vous intéresser et qui anime l'actualité française ce soir, la nomination de la ministre de la Culture, la franco-libanaise Rima Abdul Malak. Et puis juste avant également de se rendre au Sénégal, nous avons appris la nomination de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. À l'écoute d'RFI, nous sommes à présent avec Valdez Onanina à Dakar, rédacteur en chef adjoint du bureau francophone d'Africa Check. Bonsoir Valdez.
Bonsoir Adrien.
Vous nous parlez cette semaine du nombre de morts victimes de faux médicaments au Sénégal.
Oui, c'est une statistique parue dans une contribution publiée en novembre dernier sur le site d'information Sénégo, un site local ici au Sénégal, qui indique donc que plus de 10 000 personnes meurent chaque année au Sénégal à cause des faux médicaments.
Quelle est la source indiquée pour étayer cette statistique?
Alors, c'est un peu complexe, mais je vais vous dire rapidement. Nous avons contacté l'auteur de la contribution qui a indiqué que ces chiffres proviennent d'une étude de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, mais il n'a pas précisé de quelle étude il s'agit. Et cela avant de nous dire plus tard qu'il ne pouvait pas communiquer le document parce que ce dernier est confidentiel.
Alors, chez Africa Check, condamnez vos recherches.
Eh bien, la direction de la pharmacie et du médicament du Sénégal nous a notifié qu'il n'y a pas d'études sur le nombre de décès causés par la prise de faux médicaments au Sénégal. Le président du syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, le docteur Hassan Diop, a d'ailleurs relevé des difficultés à établir le lien de causalité entre la prise de faux médicaments et le nombre de décès au Sénégal. De notre côté, on a Sergio Cecchini, qui est le responsable de l'infodémie à l'OMS, qui s'occupe aussi de la plateforme établie par le Bureau Afrique de l'OMS pour contrer la propagation de la désinformation sanitaire dans la région. Il a donc indiqué à Africa Check que l'OMS ne dispose pas de données sur l'impact sanitaire de l'utilisation des faux médicaments en Afrique.
Valdez, cette difficulté à trouver des statistiques ou plutôt cette absence de statistiques fiables sur le sujet ne concerne que l'Afrique?
Bon, déjà, il faut le dire, globalement, nous avons certaines difficultés à accéder à des statistiques fiables sur la santé en Afrique. Mais pour répondre précisément à votre question, Adrien, au cours de nos recherches, nous sommes tombés sur une étude de l'OMS datée de 2018, une étude qui met en exergue les difficultés qu'il y a à établir des chiffres exacts sur l'impact des produits médicaux falsifiés ou de qualité inférieure. Et selon le document, même si l'on disposait de plus d'informations, l'impact sanitaire serait probablement différent selon les catégories de maladies. Et pour obtenir des estimations rigoureuses de l'impact sanitaire des faux médicaments, le document indique qu'il faut une modélisation séparée pour de nombreuses grandes maladies, ce qui n'est pas encore le cas. Donc clairement, il n'existe aucune méthodologie générale pour aider à évaluer les impacts sanitaires causés par les produits médicaux de qualité inférieure ou falsifiés. Et donc, il est impossible, Adrien, de tirer des conclusions globales sur l'impact sanitaire probable de ces faux médicaments.
Nous retenons donc qu'il n'y a pas de preuve que 10 000 personnes meurent chaque année au Sénégal dues aux faux médicaments et que globalement, il y a beaucoup de difficultés à tirer des conclusions sur l'impact sanitaire des produits médicaux de qualité inférieure, voire même falsifiés.
C'est exact. Merci. Merci beaucoup, Adrien.
Merci à vous, Valdez Onanina, en ligne de Dakar. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef adjoint du bureau francophone d'Africa Check et que cet article, comme tous les autres, sont à retrouver sur votre site africacheck.org. Et nous restons au Sénégal pour comprendre comment les plus jeunes sont sensibilisés à la lutte contre la désinformation, comment s'informent-ils, quelle place prend les réseaux sociaux, quel est le rôle de l'enseignement dans l'éducation aux médias. Entretien avec Adama Sania, il est professeur dans le primaire à Dakar.
Bonjour RFI, je m'appelle Yvette Mendy, j'ai 12 ans. Je suis une élève en classe de CM2. Moi, je m'informe à travers tous les médias, sauf les réseaux sociaux. Les médias nous informent ce qui se passe dans le monde. Je me sens à l'aise en regardant le TFM parce que la télé nous donne des informations fraîches, sûres et vraies. Parfois, les réseaux sociaux nous donnent des informations fausses.
Bonjour Adrien, bonjour Elfie.
Vous êtes enseignant dans une école primaire. Présentez-nous tout d'abord votre école.
Voilà, je suis Adama Bertrand Sagnan, je suis enseignant à l'école Angela Davis. Elle se situe juste à quelques jets qu'il y a de la corniche qui fait face à la mer. L'école se situe juste à la cité Gadaé. Voilà, c'est ça.
On est avec vous en ligne pour parler de lutte contre de la désinformation. Dites-nous tout d'abord, quel est votre travail? Comment vous sensibilisez les enfants aux médias?
Déjà, dans notre métier, effectivement, l'enfant a besoin d'une information fiable, une information qui pourra effectivement l'aider à grandir sainement. Donc, du coup, on est obligé, effectivement, pédagogiquement, d'attirer leur attention par rapport à l'intoxication. Parce que dans les médias, il y a plein d'intoxications, surtout au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, n'oubliez surtout pas d'interpeller chaque fois papa ou maman et quand il y a équation. Voilà. Donc, en classe, effectivement, c'est le travail qui se fait d'abord, effectivement, par rapport à ça.
Vous leur apprenez à recouper les informations, c'est ça?
Ça dépend des informations, effectivement, parce que l'information aussi, l'élève, effectivement, c'est un imitateur. L'enfant n'est qu'un imitateur par excellence. Donc, là, par exemple, quand il est entouré de ses parents et que au niveau des parents, on l'apprend pas, c'est quoi information? Et il y a, excusez-moi du terme, s'il y a un peu de laisser-aller, à partir de là, vraiment, effectivement, il va à la dérive. Et puis, c'est le problème qu'on retrouve chaque fois ici dans les salles de classe. On a une cinquantaine, une trentaine d'élèves à mettre dans une même ambiance, dans une même symbiose, effectivement, à formater parfois, effectivement. Donc, le travail se fait en amont, je pense qu'effectivement, au niveau des parents. Maintenant, en classe, notre rôle, effectivement, de pallier les deux, de travailler en amont avec les parents pour pouvoir, effectivement, donner ce dont a besoin l'enfant.
Faites-vous des exercices? Quels sont les outils que vous employez pour enseigner cette lutte contre les fausses informations?
D'abord, effectivement, la force de la classe, ma classe à moi, c'est le français. Moi, je travaille surtout, particulièrement dans le domaine de la production d'écrits, dans le domaine, effectivement, de comment communiquer. Et dans la communication, il faut la communication surtout écrite. Et pour passer à la communication écrite, il faut la communication orale. Maintenant, l'élève, effectivement, on peut lui proposer, parfois j'ai fait un débat, par exemple, qui concerne un sujet, effectivement, dont on ne parle pas souvent dans la société sénégalaise, le mariage forcé, des trucs comme ça. Eh bien, voilà, j'invite les élèves, effectivement, par rapport à ça, à échanger. Et dans cet échange, on remarque qu'il y a des écarts parfois de langage par rapport aux échanges produits par les élèves. Voilà, on sent nettement qu'effectivement que l'élève ne fait qu'apprendre. Il fait que produire ce qu'il a appris à la maison. À partir de là, effectivement, on le localise, on l'identifie, on l'amène effectivement à adopter effectivement la meilleure méthode pour aller de l'avant.
Bonjour, je m'appelle Martalo, élève au CM2 à l'école Angela Davis, j'ai 11 ans. Je m'informe à travers tous les médias, sauf les réseaux sociaux, parce que les médias nous donnent des informations fiables, claires et correctes. Tandis que les réseaux sociaux, ils nous fournissent généralement de fausses informations. J'aime ça au top avec TFM, Radio Télé, Futur Média, parce que je l'écoute avec mon père et ma grand-mère.
Ressentez-vous un intérêt des enfants à l'égard de l'information en général?
Absolument, parfois. L'enfant, effectivement, la plupart des informations que demandent les enfants, c'est-à-dire c'est les informations qu'ils jugent fiables. Je ne rejette pas les informations tirées d'ailleurs, mais les informations que l'enfant juge fiables, mes élèves jugent fiables, c'est l'information qui a été obtenue en classe avec le maître. Parce qu'il se dit, quelque part, le maître est un saint, entre guillemets, bon, peut-être le mot est un peu fort. C'est pourquoi on n'a pas le droit, effectivement, de donner du faux à l'enfant. Alors, l'enfant, quand, effectivement, le maître est devant l'enfant pour donner une information, il est d'abord très concentré, il est attentionné, il est là, effectivement, ben voilà, c'est des trucs... Qu'on remarque effectivement. Donc, il y a du donner et recevoir. Donc, là, ça produit un effet très, très positif par rapport quand le maître effectivement essaie de donner une information ou d'apprendre effectivement pour aller de l'avant. Donc je ressens personnellement quelque chose de très positif, hein, franchement. Voilà.
L'influence des réseaux sociaux, est-ce que vous la subissez, vous, en classe?
Effectivement, les élèves en parlent tout le temps, en parlent souvent. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs, mais chez nous ici, la plupart dans les réseaux sociaux, il y a plus d'intoxication que du bon, voilà. Donc la plupart, effectivement, les gens, ce sont des gens qui se cachent derrière les réseaux pour effectivement se donner à le spectacle préféré, effectivement. Donc donner du faux. Parfois, on lit dans les réseaux sociaux une information qui n'est pas vraie. Et pourtant, elle est là, distillée. Les élèves ont appris cela. Je sais qu'effectivement, ils ont déjà, parce qu'en classe, on fait qu'effectivement, qu'on complétait. La plupart des élèves, effectivement, interrogés ici, dans ma classe, ils me disent, écoutez, nous, ils le disent sans mettre de gants, effectivement, nous rejetons complètement les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, à 90%, donnent des informations fausses. Donc, du coup, ils préfèrent effectivement tirer leur information à travers les médias comme la télévision ou surtout la radio aussi. La radio, voilà, c'est comme ça, effectivement.
Au Sénégal, la lutte contre la désinformation, l'éducation aux médias, font-ils partie du programme ou alors c'est vous, en tant qu'enseignant, qui décidez de sensibiliser les enfants à ce sujet?
Personnellement, moi, c'est un travail que j'ai fait de longue haleine. C'est un travail que j'ai toujours fait parce que je me disais que moi, j'ai appris, j'ai reçu. Donc, je ne dois pas transmettre quelque chose de faux. Donc, cet enfant qui n'a pas demandé à venir, il est là, il est innocent, effectivement. Il a besoin d'être guidé. Et pour être guidé, effectivement, il doit recevoir quelque chose de vrai. Parfois, dans ma classe, je le regarde dans les yeux, je lui dis, écoutez, moi, je n'ai rien de plus que vous. Je vous ai juste devancé dans la vie. Je ne fais que passer un message que j'ai déjà reçu. Mais il faut le faire de façon honnête. Yeah, yeah,
sorry. Et c'est avec la voix et la musique du chanteur sénégalais Lidiop que se referme pour cette semaine les Dessous de l'Infox. Merci à Adama Sania, enseignant à Dakar, et à ses élèves qui ont participé à l'émission. Coordination Sigrid Azerwal, Florence Ponce, réalisation Claude Battista, merci à lui. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau numéro des Dessous de l'Infox. It's free to the ocean, it's calling Senegal. Ride on, ride on, ride on, Senegal laid on. It's the land of my father, it's the land of my mama. It's the land when I born and raised, it's the land who showed me grow. It's the land where the sun will shine, when the people keep on smiling, when you see the people living sociality. This is a Senegal, we got to something special, calling hospitality. So welcome to my land. There is the land so far away. It's calling Senegal. There is no land so far away. It's filled to the ocean. It's calling Senegal. Ride on, ride on, ride on. Senegal lay down. The building, but in Senegal, they got the feelings to the other side. They got the technology, but in Senegal.